Cinquième jour, vêpres. Où Hubertin prend ses jambes à son cou, Bensé commence à observer les lois, Guillaume fait quelques réflexions sur les différents types de luxure rencontrés ce jour-là.
Tandis que l'assemblée s'écoulait lentement de la salle capitulaire, Michel s'approcha de Guillaume et tous deux furent rejoints par Hubertin. Tous ensemble, nous sortîmes, pour discuter dans le cloître, protégés par le brouillard qui n'avait pas l'air de vouloir décroître, les ténèbres le rendant au contraire plus dense encore. « Je ne crois pas qu'il faille commenter ce qui s'est passé, » dit Guillaume. « Bernard nous a battus à plate couture. Ne me demandez pas si cet imbécile de Dolcinien est vraiment coupable de tous ces crimes. Selon mon humble opinion, non, sans nul doute. Le fait est que nous en sommes au point de départ. Jean te veut tout seul en Avignon, Michel, et cette rencontre ne t'a pas fourni les garanties que nous cherchions. Elle t'a plutôt illustré comment chacune de tes paroles là-bas pourrait se rétorquer contre toi. » De quoi il faut déduire, me semble-t-il, que tu ne dois pas y aller. Michel secoua la tête. En revanche, j'irai. Je ne veux pas de schisme. Toi, Guillaume, aujourd'hui, tu as parlé clair et tu as dit ce que tu voudrais. Eh bien, ce n'est pas ce que je veux, moi. Et je me rends compte que les résolutions du chapitre de Pérouse ont été utilisées par les théologiens impériaux au-delà de nos intentions. Moi, je veux que l'ordre franciscain soit accepté dans ses idéaux de pauvreté par le pape. Et il faudra que le pape comprenne que seulement si l'ordre prend sur soi l'idéal de la pauvreté, on pourra réabsorber ses ramifications hérétiques. Moi, je ne pense pas à l'assemblée du peuple ou aux droits des gens. Je dois empêcher que l'ordre ne se dissolve en une pluralité de fraticelles. J'irai en Avignon. Et si nécessaire, je ferai acte de soumission à Jean. Je transigerai sur tout, sauf sur le principe de pauvreté. Hubertin intervint. Tu sais que tu risques ta vie ? Et ainsi soit-il, répondit Michel, c'est mieux que de risquer son âme. Il risqua sérieusement sa vie. Et si Jean était dans le vrai, ce que je ne crois toujours pas encore, il perdit aussi son âme. Comme désormais tout le monde le sait, Michel se rendit auprès du pape, la semaine qui suivit les faits que je suis en train de raconter. Il lui tint tête 4 mois durant, jusqu'à ce que, en avril de l'année suivante, Jean convoqua un consistoire où il le traita de fou, téméraire, tête de mule, tyran, fauteur d'hérésie, serpent nourri par l'Église dans son sein même. Et j'ai tout lieu de penser que dès lors, selon sa façon de voir les choses, Jean avait raison, car au cours de ces 4 mois, Michel était devenu ami de l'ami de mon maître, l'autre Guillaume, celui d'Occam, et il en avait partagé les idées, pas très différentes, peut-être encore plus extrêmes, de celles que mon maître partageait avec Marsile et avait exprimées ce matin-là. La vie de ces dissidents devint précaire, en Avignon, et à la fin mai, Michel, Guillaume d'Occam, Bonagrazia de Bergame, François d'Ascoli et Henri de Thalheim prirent la fuite, poursuivis par les hommes du pape à Nice, Toulon, Marseille et Aigues-Mortes, où ils furent rejoints par le cardinal Pierre de Harablay, qui tenta en vain de les induire à revenir, sans vaincre leur résistance, leur haine pour le souverain pontife, leur peur. En juin, ils arrivèrent à Pise, accueillis triomphalement par les impériaux, et dans les mois qui suivraient, Michel dénoncerait publiquement Jean. Trop tard désormais. La fortune de l'empereur déclinait. Depuis Avignon, Jean manigançait pour donner aux minorites un nouveau supérieur général, obtenant enfin victoire. Michel eut mieux fait ce jour-là de ne pas décider de se rendre auprès du pape. Il aurait pu veiller de près à la résistance des minorites, sans perdre tous ses mois à la merci de son ennemi, affaiblissant sa position. Mais peut-être ainsi en avait décidé l'omnipotence divine. Et je ne sais plus à présent qui d'entre eux tous était dans le vrai. Et après tant d'années, même le feu des passions s'éteint, et avec lui ce qu'on croyait être la lumière de la vérité. Lequel de nous est encore capable de dire qui avait raison d'Hector et d'Achille, d'Agamemnon ou de Priam quand ils se battaient pour la beauté d'une femme qui maintenant est cendre de cendre ? Mais je me perds en divagations mélancoliques. Je dois en revanche dire la fin de ce triste entretien. Michel avait décidé, et rien n'y fit pour le convaincre de renoncer. À part qu'il se posait à présent un autre problème, et Guillaume l'énonça sans embâge. Hubertin lui-même n'était plus en sécurité. Les phrases que lui avait adressées Bernard, la haine que le pape nourrissait désormais pour lui, et puis, si Michel représentait encore un pouvoir avec lequel traiter, Hubertin par contre était demeuré seul, lui-même son propre partisan. J'en veux Michel à sa cour et Hubertin en enfer. Si je connais bien Bernard, d'ici demain et avec la complicité du brouillard, Hubertin sera tué. Et si quelqu'un se demande par qui, l'abbaye pourra bien supporter un autre crime. Et l'on dira que c'était des diables évoqués par Remigio avec ses chats noirs ou quelques dolciniens rescapés qui hantent encore ses murailles. Hubertin était soucieux. « Et alors » demanda-t-il. « Alors, » dit Guillaume, « va parler avec l'abbé. Demande-lui une monture, des provisions, une lettre pour une abbaye lointaine au-delà des Alpes, et profite du brouillard et de l'obscurité pour partir sur le champ. Mais les archers ne gardent-ils pas encore les portes ?
L'abbaye a d'autres sorties, et l'abbé les connaît. Il suffit qu'un servant t'attende à l'un des tournants en contrebas de l'enceinte avec une monture, et en sortant par un passage dans les murs, tu n'auras qu'à faire un bout de chemin à travers bois.
Tu dois agir de suite, avant que Bernard ne se remette de l'extase de son triomphe.
De mon côté, je dois m'occuper d'une autre affaire. J'avais deux missions. L'une a échoué, qu'au moins n'échoue pas l'autre. Je veux mettre la main sur un livre et sur un homme. Si tout va bien, tu seras hors d'ici encore avant que je ne m'inquiète de toi.
Or donc, adieu. Il ouvrit les bras, avec émotion. Hubertin l'étreignit fortement. « Adieu, Guillaume. Tu es un Anglais fou et arrogant, mais tu as un grand cœur. Nous reverrons-nous ? » ?»«
Nous nous reverrons, » le rassura Guillaume.
« Dieu le voudra. »
Mais Dieu ne le voulut pas. Comme je l'ai dit, déjà, Hubertin mourut tué dans des circonstances mystérieuses 2 ans plus tard. Vie dure et aventureuse que celle de ce vieux combatif et ardent. Peut-être ne fut-il pas un saint, mais j'espère que Dieu a récompensé son adamantine assurance d'être tel. Plus je deviens vieux, et plus je m'abandonne à la volonté de Dieu, et de moins en moins j'apprécie l'intelligence qui veut savoir et la volonté qui veut faire. Et je reconnais comme unique élément de salut la foi, qui sait attendre patiemment sans trop interroger. Et Hubertin eut certainement grande foi dans le sang et dans l'agonie de notre Seigneur crucifié. Peut-être alors pensais-je à tout cela, et le vieux mystique s'en aperçut-il, ou devina-t-il que je le penserais un jour ? Il me sourit avec douceur et m'embrassa, sans l'ardeur avec laquelle il m'avait saisi parfois les jours précédents. Il m'embrassa comme un aïeul embrasse son petit-fils, et dans le même esprit je lui rendis son étreinte. Puis il s'éloigna avec Michel pour chercher l'abbé.